Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud.
C'est quand même très important que les femmes puissent maintenant oser dire, comme elles n'osaient pas dire avant le viol, maintenant un grand nombre, pas toutes, mais un grand nombre osent dire le harcèlement.
La violence sournoise, mais totale, que l'on subit ici, dans les usines, tout cela maintenu au nom de l'économie, est en réalité une mise en esclavage.
Une mère célibataire, même après la naissance de son enfant, reste sous la tutelle de ses parents.
C'est une règle des droits de l'homme que précisément les hommes doivent aider les autres hommes.
Sartre et Beauvoir, ils forment le couple d'intellectuels iconiques du XXe siècle. Ils ont révolutionné la philosophie et le féminisme. Guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, révolution cubaine. Ils ont aussi été de tous les combats politiques entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1970.
C'est que je suis un intellectuel et que voilà, un siècle, l'alliance du prolétariat et des intellectuels a existé et qu'elle représentait une force considérable. Il faut que les intellectuels et les ouvriers s'unissent.
Mais Sartre et Beauvoir, c'est aussi un couple qui a forgé une vision moderne de la relation conjugale.
Et la liberté sur laquelle on a beaucoup glosé entre deux, c'était quelque chose de réel ou c'était quelque chose qu'on a exagéré a posteriori ?
Oh non, c'était quelque chose de tout à fait réel. Et elle savait à peu près tout ce que Sartre faisait.
À travers les relations passionnelles et parfois tragiques de ces deux philosophes engagés, nous allons nous replonger ensemble au cœur des grands moments du siècle dernier dans une série spéciale en 4 épisodes émaillée d'archives Europe 1. Sartre et Beauvoir existaient ensemble. Épisode 4. Un couple d'intellectuels pour l'éternité. En 1963, Sartre et Beauvoir se trouvent à Leningrad, en URSS, à l'occasion de la session annuelle du comité directeur de l'Association européenne des écrivains. Cette association, qui regroupe plus d'un millier d'auteurs de l'Ouest comme de l'Est, est un moyen de montrer que les intellectuels peuvent s'entendre au-delà des frontières et des clivages politiques liés au rideau de fer. Et du point de vue de la propagande, l'URSS a tout intérêt à montrer qu'elle est une patrie de la littérature capable de se lever contre la culture bourgeoise décadente. Conquis par les charmes soviétiques, les intellectuels étrangers devraient ensuite vanter le régime à travers le monde. Cette année-là, donc, une centaine d'écrivains de cette association se sont donné rendez-vous au bord de la Neva. Sartre et Beauvoir sont un peu les figures de proue de l'événement. Parmi les Français, il y a aussi les étoiles montantes du nouveau roman, Nathalie Sarraute et Alain Robbe-Grillet. Le nouveau roman est alors un mouvement littéraire qui cherche à renouveler des styles d'écriture en cassant tous les codes existants de la littérature. C'est une réflexion sur les nouvelles formes de création qui s'oppose à l'existentialisme qui milite pour des œuvres littéraires engagées. Ce que je vais vous raconter là, vous ne le lirez nulle part, parce que je le tiens de la bouche même d'une personne présente lors de cet événement. Sartre a déjà 58 ans. Il est au fait de sa gloire, il est sûr de lui et de son talent. Certains le considèrent comme le dernier grand philosophe. Les autres penseurs ne seraient à côté de lui que des rhéteurs ou des sophistes. À ce titre, Sartre ne se sent plus en concurrence avec personne. Il se montre donc particulièrement chaleureux, notamment avec le pape du nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, de 17 ans son cadet. Simone de Beauvoir n'apprécie pas du tout cette complicité entre les deux hommes. Elle prend l'air pincé. Elle veut que Sartre brille seul au firmament des auteurs, et s'il doit y avoir une autre personne digne de l'admiration publique à ses côtés, cela ne peut être qu'elle seule. Résultat, Beauvoir n'est pas très agréable pendant l'événement et Alain Robbe-Grillet s'en amuse en la surnommant « la duchesse de Beauvoir ». C'est un joli pied de nez à celle qui porte une particule et qui toute sa vie a rejeté le statut de bourgeoise qu'elle n'a jamais vraiment quitté. Évidemment, vous allez me demander ma source, et avec son accord, je vous la révèle. Il s'agit de Catherine Robbe-Grillet, l'épouse d'Alain, présente à Leningrad auprès de son mari lors de cet événement littéraire en 1963. Beauvoir peut se rassurer. Sartre va bientôt se voir offrir la plus grande récompense publique qu'un auteur puisse recevoir. Le 22 novembre 1964, l'Académie des Nobel consacre le talent et l'œuvre de Sartre en lui décernant le prix Nobel de littérature. C'est le jeune journaliste François de Closet qui l'annonce au philosophe dans un restaurant dans lequel il déjeune. Il vient d'avoir la dépêche de l'AFP. Sartre devrait être aux anges. Eh bien, pas du tout. Il refuse ce prix. Il n'ira pas chercher ce Nobel parce que pour lui, c'est comme le baiser de la mort. C'est comme si on disait que son œuvre est terminée. Voilà la décoration suprême, il ne peut rien y avoir après.
J'ai refusé le prix Nobel et j'ai donné aux journaux suédois, parce que c'est à eux que je devais le donner d'abord par courtoisie, les raisons de mon refus. Il y a des motifs personnels et des motifs objectifs. Et les raisons pour lesquelles j'ai refusé le prix Nobel sont d'un type personnel d'un côté, c'est que j'ai toujours refusé les distinctions quand on a bien voulu me les offrir ou que j'ai pensé qu'on me les donnerait. Et que par conséquent, la plus haute distinction, qui est le Nobel, je ne tenais pas non plus, j'étais obligé de la décliner, comme toutes les autres. Je considère qu'un écrivain ne doit pas agir en fonction d'une institution qu'il protège, que ce soit l'Académie ou le Nobel, mais qu'il doit écrire par sa propre force de persuasion. Autrement dit, rien dans les mains, rien dans les poches.
Et puis Sartre ne pourra plus prétendre être n'importe qui pour pouvoir parler au nom de tout le monde. Sartre refuse cette posture de surhomme que donnent les honneurs. Pour lui, un Nobel le distinguera de la masse des individus et ses idées perdront de leur valeur.
Le problème de ce prix, et notamment le problème de l'argent, le chèque qu'il y avait au bout de ce prix, a été pour vous un cas de conscience.
Oui, parce que vous comprenez, 26 millions, ça ne se refuse pas, étant donné qu'on peut en faire énormément. Quelqu'un a dit dans un journal que j'avais assez d'argent pour être au-dessus de cela, mais en fait, n'importe qui, même les gens les plus riches, peuvent considérer qu'avec 26 millions, on peut faire énormément. Malheureusement, il est impossible de les accepter sans accepter en même temps ce prix, c'est-à-dire précisément sans cesser d'être d'accord avec moi-même.
Il est sans doute sincère, mais c'est un merveilleux coup de com', comme on dirait aujourd'hui. Par ailleurs, Sartre a d'autres combats politiques à mener. Cette fois, il monte au créneau contre la guerre du Vietnam.
J'ai toujours été ami des Vietnamiens et j'ai considéré que leur situation actuelle était épouvantable et qu'il fallait que tous les Français interviennent. Il ne s'agit pas de politique ici. Je vous dirais même que politiquement, on ne va pas chercher les opinions de ces hommes, qui ont pu être contraires aux nôtres autrefois. Simplement, ce sont des hommes qui sont en passe de mourir, qui vont mourir.
C'est un conflit qui fait suite à la décolonisation de l'Indochine, qui était un territoire français. En devenant indépendant, le pays s'est rapproché des grandes puissances communistes que sont l'URSS, mais aussi la Chine. La jeune République démocratique du Vietnam est donc présidée par le communiste Ho Chi Minh, alors que les États-Unis exercent un contrôle sur le sud du pays. Vous vous doutez bien qu'en pleine guerre froide, les Américains n'ont pas envie de laisser prospérer les communistes qui sont de facto dans l'orbite de l'URSS. Ce conflit est incroyablement compliqué, alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais pour faire simple, il oppose le Vietnam et certains de ses alliés aux États-Unis. L'un des motifs de cette guerre pour les Américains, et notamment pour le président Kennedy, est la volonté de soutenir l'avènement d'un régime non communiste dans le pays. Au milieu des années 1960, alors que les GI sont massivement envoyés dans cet enfer tropical où les rizières brûlent sous l'action du napalm, Sartre prend fermement position contre l'impérialisme américain.
La situation du Vietnam est encore très difficile. Et comme le système communiste ne plaît pas à tout le monde, il est évident que ces gens qui ont pu d'ailleurs combattre pour le Vietnam nouveau aient lâché au bout d'un certain temps.
En 1966, il fonde même avec l'intellectuel britannique Bertrand Russell le tribunal Russell. Il s'agit d'un tribunal d'opinion qui ne dispose d'aucun pouvoir judiciaire. Il a seulement pour but de dénoncer les exactions des Américains au Vietnam. Cet organisme doit se réunir deux fois en 1967. La première session a lieu en France et la seconde en Suède, parce que le général de Gaulle, alors président de la République, refuse que cette instance tienne sa seconde réunion dans son pays. Si le tribunal pointe les exactions des Américains, il refuse d'enquêter sur les crimes commis par le Viet Cong, l'organisation communiste pour la libération du sud du Vietnam. Cette année-là, Sartre reçoit un couple de journalistes chez lui pour parler de ce tribunal et de son engagement. Le philosophe explique que cet organisme sans légitimité doit éveiller la conscience collective, que chacun doit se sentir concerné par la guerre du Vietnam comme s'il pouvait légitimement la juger. Il explique aussi qu'il faut lutter pour l'indépendance du Vietnam et contre l'impérialisme américain. Si les États-Unis affirment leur hégémonie dans la partie orientale de l'Asie, ils poursuivront leur conquête en Amérique latine. Ils instaureront ensuite la Pax America, comme les Romains de l'Antiquité avaient instauré la Pax Romana dans leur empire, c'est-à-dire un contrôle militaire et administratif de leur territoire. Mais Sartre redoute aussi que le conflit qui s'enlise ne mène à l'explosion d'une autre bombe atomique. Ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale sont encore horrifiés par le recours à l'arme nucléaire au Japon en 1945. Dans le cadre de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se sont livrés à une course à l'armement, et il y a des ogives pointées sur de nombreux points stratégiques du globe. La guerre du Vietnam s'achève en 1975, laissant les régimes communistes s'installer dans la région. À la fin des années 1960, Sartre et Beauvoir sont les coqueluches des médias. Ils sont présentés comme un couple d'intellectuels fascinants. Les journalistes ne s'intéressent pas qu'à leurs idées, ils veulent en savoir plus sur leur vie. Leurs emplois du temps sont décortiqués devant les caméras. Sartre et Beauvoir ne passent pas une journée sans se voir, même s'ils refusent de vivre ensemble. Le matin, chacun travaille chez lui. Ils déjeunent ensuite dehors, parfois ensemble, parfois avec une autre personne. Leurs lieux de rendez-vous favoris sont les célèbres Cafés de Flore et les Deux Magots, situés près de l'église de Saint-Germain-des-Prés. L'après-midi, ils travaillent côte à côte, et le soir, ils écoutent de la musique ou ils sortent. Les journalistes curieux se demandent ce qu'ils peuvent se raconter depuis tant d'années de vie commune. Ça fait presque 40 ans qu'ils sont ensemble maintenant. Beauvoir répond sans embâge qu'ils ruminent ensemble. Le secret de ce couple atypique est le travail. Ils se sont battus pour que leur œuvre compte, que leur pensée fasse évoluer le monde. Ils ont été le premier critique et le premier soutien l'un de l'autre. Même s'ils ont eu beaucoup d'amants, je ne vous en ai pas fait la liste exhaustive et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, ils ont protégé leur couple et leur amour nécessaire. Ça ne s'est pas fait sans souffrance, sans hésitation, mais ils sont restés fidèles à leur pacte. À cette époque, dans les années 1960 donc, les journalistes questionnent Beauvoir sur son œuvre. Elle a déjà écrit plusieurs volumes de ses mémoires. Les mémoires d'une jeune fille rangée, La force de l'âge, La force des choses et Une mort très douce. La philosophe explique à la journaliste qu'elle a senti très jeune l'envie de se raconter, de laisser un témoignage de sa jeunesse, mais elle ne pouvait pas publier ses souvenirs sans être un auteur déjà reconnu, parce que sinon, ça n'intéresserait personne. L'explication de Beauvoir laisse perplexe. Mais elle s'explique par un traumatisme qui est au cœur de ses réflexions féminines et féministes. La mort de son amie d'enfance Zaza, qui occupe plusieurs romans dont certains, comme Les Inséparables, ne seront publiés que bien après sa mort. Mais c'est moins ses romans qui distinguent Beauvoir que ses positions féministes. Alors que les années 1970 approchent, alors que mai 68 sème le chaos dans les rues de Paris, que la jeunesse s'exclame qu'il est interdit d'interdire, la philosophe estime que la révolution féministe n'a pas encore eu lieu. En 1968, un peu moins de 50% des femmes ont un emploi contre 95% des hommes. Beauvoir s'en offusque. Selon elle, l'émancipation radicale des femmes qui fera d'elles les égales des hommes ne s'obtiendra que par le travail. Elle ajoute même que, pour que les femmes se sentent les égales des hommes, elles doivent avoir les mêmes responsabilités économiques et politiques.
Elle réclame aussi de ne pas être chassée des établissements d'État, des lycées, des collèges, lorsqu'elles sont enceintes, parce qu'aucune loi n'autorise les chefs d'établissement à chasser des jeunes femmes enceintes. Et elle réclame ensuite, une fois qu'elles sont mères et qu'elles ont la charge de leur enfant, d'obtenir un salaire qui soit au moins égal au SMIC, puisqu'elles rendent service au pays en élevant des enfants que d'ailleurs on ne leur permet pas d'éviter, puisque l'avortement, même dans des conditions pareilles, quand ce sont des toutes jeunes femmes qui ne savent pas très bien ce qu'elles ont fait, est interdit.
En réalité, les femmes en dehors de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie ont toujours travaillé par nécessité, mais elles étaient condamnées à des tâches peu qualifiées et très mal payées. La conquête du marché du travail pour les mêmes postes que les hommes signe donc l'avènement de l'égalité entre les hommes et les femmes. Beauvoir a eu raison de souligner l'importance du travail comme facteur d'émancipation. Mais son apport au féminisme ne s'arrête pas là. Elle est aussi largement partie prenante dans le combat des associations féministes en faveur de l'IVG. C'est Beauvoir qui rédige en 1971 le célèbre manifeste des 343 en faveur de l'avortement. Elle y dénonce la dangerosité des avortements clandestins. Le manifeste est signé par 343 femmes célèbres qui admettent avoir avorté à une époque où elles risquent de passer au tribunal pour cela. Parmi ces femmes, il y a Catherine Deneuve, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau, Françoise Sagan. Beauvoir aussi signe le manifeste, même si elle n'a jamais eu à s'allonger sur la table d'une faiseuse d'anges. Ce manifeste des 343, surnommé par ses détracteurs le manifeste des 343 salopes, paraît dans le Nouvel Observateur. Porté ensuite par Simone Veil, alors ministre de la Santé à l'Assemblée nationale, l'IVG est autorisé en France à partir de 1975. Dans ces années de libération sexuelle, Sartre et Beauvoir militent dans les journaux de gauche en faveur de toutes les libérations sexuelles et parfois, ils s'égarent un peu, victimes de l'euphorie de l'époque. En 1977, le sulfureux écrivain notoirement pédophile Gabriel Matzneff lance deux pétitions dans Le Monde et dans Libération pour soutenir trois hommes jugés pour attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de moins de 15 ans. Son texte défendait la possibilité d'avoir des relations sexuelles avec des mineurs, même très jeunes, dans la mesure où ils étaient consentants. C'était une manière à l'époque de reconnaître que les jeunes pouvaient aussi avoir droit à une sexualité. Grisé par l'imaginaire de mai 68 et ses slogans tels que « jouir sans entrave », beaucoup d'intellectuels de gauche signent la pétition de Matzneff. Parmi eux, il y a notamment Jack Lang, Bernard Kouchner, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. En cette fin des années 1970, Sartre est malade. Beauvoir prend soin de lui. Son couple demeure pour elle une de ses plus grandes réussites et elle reste loyale au jeune philosophe qui lui a proposé un pacte sur un banc du Louvre 40 ans plus tôt. Lorsque Sartre meurt en 1980, la France est en deuil. Mais plus que la perte de son amour, Beauvoir souffre de la rivalité avec une autre ancienne maîtresse du philosophe. Arlette El-Kaïm était une ancienne amante de Sartre. Elle était devenue sa secrétaire, mais il l'avait aussi adoptée en 1965. C'est donc elle qui est en charge de la succession du philosophe et non Beauvoir qui n'a jamais été son épouse. Et la jalousie entre les vieilles rivales éclate alors. Arlette ne laisse presque rien de Sartre à Beauvoir, ni effet personnel, ni droit sur sa succession. Beauvoir est dévastée. Elle sombre dans la dépression et l'alcool. Son foie en souffre et elle se retrouve à l'hôpital. Elle reprend du poil de la bête et pour se venger d'Arlette et prouver au monde qu'elle était la seule véritable compagne de Sartre, elle publie en 1983 les lettres au Castor et à quelques autres. Cette parution fait des ravages dans l'entourage du couple. Beaucoup se rendent compte, comme je le disais dans le deuxième épisode, qu'ils n'étaient que des jouets au service de leur fantaisie. Simone de Beauvoir meurt à son tour en 1986. Elle est enterrée aux côtés de Jean-Paul Sartre au cimetière du Montparnasse. Elle demeure jusqu'à aujourd'hui la figure de proue du féminisme occidental.
Est-ce que vous avez l'impression qu'elle a peut-être fait un complexe par rapport au monument Sartre, justement dans le domaine non. Dans la littérature ?
Non, je pense pas du tout.
Juliette Gréco.
Je pense pas, vous arrivez à me faire sourire là. Non, je pense pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'était une association de deux intelligences brillantes, rayonnantes et chaleureuses. Je pense pas du tout qu'il y ait eu quelque complexe que ce soit.
Est-ce que vous avez l'impression que Simone de Beauvoir a été la femme la plus importante de l'après-guerre en France ?
Je pense, oui. Certainement.
Elle a réussi à devenir, après sa mort, une icône toujours lue, toujours adulée, et elle est maintenant beaucoup plus connue que Sartre, qui, de son vivant, était plus célèbre qu'elle. Mais les temps changent, et il n'y a aucune statue dont on ne cherche pas à desserrer les boulons. En 2021, des étudiants de la Western Washington University lancent une pétition contre le montage de la pièce « Huis clos » de Sartre, qui est sans conteste l'un de ses chefs-d'œuvre. La raison de cette condamnatio memoriae, ou volonté de canceller comme on dit aujourd'hui, est que « Huis clos » met les étudiants mal à l'aise. D'un autre côté, les journalistes commencent à pointer le goût inapproprié de Beauvoir pour ces jeunes étudiantes. Bien loin de moi l'idée de leur faire un procès. Sartre et Beauvoir ont été le plus grand couple d'intellectuels du XXe siècle. Qu'on adhère à leurs pensées ou non, ils ont laissé leur empreinte sur le monde. Ils ont existé ensemble et contribué à écrire l'histoire avec un grand H. C'est la fin de ce récit en quatre parties émaillé d'archives Europe 1 consacré à Sartre et Beauvoir. Merci de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. Et vous avez peut-être remarqué que dans ce récit, il y a eu quelques voix additionnelles. Camille Bichler a prêté sa voix au Castor, Florine Sylvan à Bianca Bienenfeld, Marlène Duret à la mère de Nathalie Sorokin et Clément Ibrahim à Jean-Paul Sartre. Et puis comme d'habitude, à la production, Camille Bichler, à la réalisation Clément Ibrahim, à la direction artistique Julien Tarot et Adèle Imbert, à la composition des musiques originales Julien Tarot et Sébastien Guidis, à la communication et à la diffusion Kelly Decroix et Florine Sylvan. Pour cette série spéciale, l'équipe d'Au cœur de l'Histoire remercie tout particulièrement le service de documentation d'Europe 1. Et moi, la plume et la voix de ce podcast, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt.